Dixième jour. Joyeuse acceptation des épreuves. Je cite. Madame Alice, je me recommande à vous de tout mon cœur. Mon gendre Héron m'informe que nos granges ont péri, ainsi que celles de nos voisins, avec tout le grain qui s'y trouvait. N'était le bon plaisir de Dieu, ce serait grande pitié que la perte de tant de bons grains. Mais puisqu'il lui a plu de nous envoyer cet accident, il nous faut, c'est un devoir, non seulement nous en accommoder, mais encore nous réjouir de cette visitation. C'est lui qui nous avait envoyé tout ce que nous avons perdu. Et puisqu'il nous l'a repris par cet accident, que son bon plaisir s'accomplisse. N'allons pas maugréer là contre, mais prenons la chose en bonne part et remercions-le de tout cœur, aussi bien pour l'adversité que pour la prospérité. Peut-être avons-nous plus matière à le remercier pour notre perte que pour notre gain, car sa sagesse voit mieux ce qui est bon pour nous que nous ne le voyons nous-mêmes. Je vous prie de faire une bonne enquête sur ce que mes pauvres voisins ont perdu. Dites-leur de ne se faire aucun souci là-dessus, car même s'il ne devait pas me rester une cuillère, j'entends que nul de mes pauvres voisins ne subisse de perte en raison d'un accident survenu dans ma propre maison. Cette longue citation résume exactement l'attitude de mort, qui est aussi celle qu'il recommande aux chrétiens confrontés aux épreuves. Le thème des tribulations et des différentes manières dont l'homme les assume est le sujet même du livre écrit en prison, le dialogue du réconfort dans la tribulation. Lorsque, sûr de l'indignation du roi, mort sait qu'il peut être condamné à mort en désobéissant à la volonté du roi afin d'obéir à sa conscience. Lorsqu'il parle de tribulation, mot qu'il emploie souvent dans le dialogue, mort, vivant lui-même une tribulation totalement injuste et scandaleuse, peut se permettre de donner une leçon de vie au lecteur. Nous savons par une note manuscrite jointe à son texte que Thomas More espérait pour ce dialogue une large audience. Bien qu'il soit impossible de résumer un tel livre, sans doute un sommet dans la production littéraire de Thomas More, aussi dense, aussi fouillé, y compris dans l'analyse de la psychologie humaine, il est bon d'entrer dans la pensée de Thomas More, son argumentation et son raisonnement. Pour More, la base du réconfort dans les tribulations, c'est la foi. Je cite, « Sans ce fondement préalable, tout le réconfort spirituel dont on pourra parler aura moins de poids qu'une mouche. Ne serait-ce pas en pure perte que l'on offrirait des motifs naturels de réconfort à qui n'a pas la raison ? Non moins indubitablement, ce serait peine perdue que d'offrir des motifs spirituels de réconfort à qui n'a pas la foi. Si un homme d'entrée de jeu ne croit pas que l'Écriture sainte est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est vraie, comment peut-il puiser du réconfort dans ce que lui dit l'Écriture ? Fin de citation. À partir de là, Thomas More présente, sous la forme d'un dialogue platonicien, objection et réponse, toutes les épreuves imaginables que l'homme peut rencontrer. Elles sont passées en revue avec gravité, certes, mais enveloppées de nombreuses anecdotes, parfois autobiographiques, souvent savoureuses, ce qui n'est pas l'un des moindres paradoxes de More. Quelle que soit l'épreuve, maladie, perte des biens matériels, mort d'un proche ou la sienne, prison, tentation du suicide ou du parjure, Thomas More sait que l'homme a une tendance naturelle à se révolter lorsqu'il est confronté aux tribulations. Pour nous aider et s'aider lui-même à les assumer sans crainte, More n'hésite pas à rappeler comme preuve que cette vie n'est pas le temps du rire, mais plutôt le temps des larmes, l'Écriture nous montre que notre Sauveur lui-même a pleuré 2 ou 3 fois. Elle ne le montre jamais riant. Comme la tribulation s'aggrave pour mort en prison, il éprouve le besoin de s'adresser aux siens qui sont dans l'angoisse. En rédigeant le dialogue du réconfort, écrit à la plume ou au charbon de bois lorsqu'on le privait de moyens d'écriture, Thomas More veut apaiser et affermir les esprits et les âmes de tous ceux que l'épreuve décourage, et sans doute lui-même. Il se prépare aussi à souffrir, et sans doute à mourir, pour défendre la vérité et la justice avec un message d'une portée universelle. L'émotion est forte lorsque l'un des 2 dialoguistes, Antoine, le porte-parole de More, déclare « Le jour est proche où mon lumignon s'éteindra tout à coup. C'est pourquoi je veux, avec l'aide de Dieu, même si je parais bien remis, considérer néanmoins chaque jour comme mon dernier. » L'emprisonnement et la mort de More sont prévus du début à la fin du livre où Antoine More déclare. Pour clore ce chapitre, notre Sauveur lui-même fut fait prisonnier pour nous, emmené prisonnier, gardé prisonnier, amené comme prisonnier en présence d'Anne, conduit comme prisonnier d'Anne vers Caïphe. C'est encore comme prisonnier qu'il fut emmené de Caïphe à Pilate, puis comme prisonnier envoyé par Pilate au roi Hérode, comme prisonnier de nouveau d'Hérode vers Pilate, et il demeura ainsi prisonnier jusqu'à la fin de sa passion. Pour supporter souffrance et humiliation, Thomas More propose le modèle suprême, Jésus, humilié, battu, torturé et mort pour nous. Si nous savions et voulions, avec la compassion qui se doit, concevoir en nos esprits l'image vive et le souvenir de l'amère et douloureuse passion du Christ. More poursuit par le récit méditatif et bouleversé de la passion du Christ pour conclure, je cite, « Si nous voulions, dis-je, nous rappeler tout ceci comme Dieu le voudrait de notre part, je suis bien convaincu que la considération de sa bonté inouïe ne saurait manquer d'enflammer nos cœurs de glace et d'y allumer une telle ardeur d'amour pour lui que nous nous sentirions non seulement consentants, mais contents et désireux de souffrir la mort pour celui qui, par un amour merveilleux, n'a pas hésité à endurer pour nous une mort tellement plus atroce. » More achève le dialogue par là même où il l'a débuté, la foi. Je cite, « Et pourtant, si nous avions la foi, nous trouverions un plus grand stimulant encore dans la méditation intense des joies du ciel dont l'apôtre dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui se révélera en nous. » Posons-nous la question de savoir si notre foi est une foi confiante, construite, enracinée dans l'amour du Christ. Demandons à Dieu, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Car seule la foi nous permettra, non pas de chercher le pourquoi des épreuves que nous n'avons pas choisies, mais de nous demander « Qu'est-ce que je fais de celles que je n'ai pas choisies ?»